est ouverte. Veuillez prendre place. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Monsieur le coordinateur de la coordination des programmes du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs vice-présidents de l'Assemblée de la République, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, Madame la Vice-présidente du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, Mesdames et Messieurs représentants des diverses entités, Mesdames et Messieurs, le Portugal a adhéré au Conseil de l'Europe il y a 50 ans. C'était une jeune démocratie qui était sur la voie de la consolidation. Et cette adhésion n'est pas arrivée par hasard, ce n'est pas non plus le fruit d'une formalité. Ce fut un choix profondément conscient. Choisir l'Europe, choisir la convergence européenne, choisir la démocratie, choisir l'état de droit, choisir les droits humains universels. Au cours de ces 50 ans, nous sommes devenus un membre actif de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits humains. Et nous avons retranscrit plus de 160 conventions du Conseil de l'Europe dans notre législation nationale pour concrétiser cet engagement. Tout au long de ces décennies, il est apparu clairement que les droits humains ne peuvent pas être considérés comme acquis. Bien trop souvent et dans différents forums, nous avons vu la violation de ces principes de l'universalité des droits humains pour éviter l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres États ou par intérêts tactiques, géostratégiques ou géopolitiques. Nous avons vu des violations de droits humains relativisées au nom de particularités culturelle, sociale, religieuse, la pression du politiquement correct ou par crainte de gêner. L'existence de ce prix Nord-Sud existe également pour gêner, pour nous rappeler ce qui est essentiel. Les droits humains sont universels. Et l'universalité signifie précisément cela, c'est qu'ils s'appliquent à tous. Il ne s'agit pas d'une particularité européenne ou occidentale. Les droits humains n'appartiennent pas exclusivement aux démocraties libérales. Ils ne sont pas nés d'une doctrine politique ni d'une convention idéologique. Non, ce sont des droits humains, inaliénables, non négociables. Ils s'appliquent à tout homme, à toute femme, quel que soit le pays de résidence, la race, la religion, l'âge, ou l'orientation sexuelle. Ce prix Nord-Sud nous rappelle qu'en matière de droits humains, il ne peut pas y avoir de cession ni de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-vérité. Il n'y a pas de demi-garantie. Il y a des droits, il y a des garanties, et c'est un tout. Ce prix nous rappelle également qu'il ne suffit pas de défendre les droits humains dans les discours. Il faut passer à l'action, de façon concrète, avec courage, avec capacité, pour gêner. Et ceux qui jouissent de ce droit, ce qui est notre cas, ont une responsabilité accrue. La responsabilité de promouvoir de façon intransigeante l'universalité des droits et le fait qu'ils s'appliquent à d'autres. Et c'est précisément ce que nous allons célébrer aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la remise du prix Nord-Sud est une opportunité pour réaffirmer ses principes. C'est un encouragement pour aller au-delà, plus loin dans la défense de la démocratie et des droits humains. Nous voyons le lauréat Bragi Guðbrandsson avec la création des maisons de l'enfant pour nous rappeler que les droits humains commencent dans l'enfance. Ils nous défient pour trouver de nouveaux modèles de protection de l'enfance, des stratégies transversales qui unissent les différentes entités en ayant toujours l'enfant au cœur de leurs préoccupations. Nous célébrons également et nous fêtons Monsieur Rami Abou-Jamous. Et là aussi, c'est un signe important face aux défis que rencontre la Palestine. Et je ne fais pas uniquement référence au conflit à Gaza. Je pense à la défense des droits humains sur ce territoire, à la véritable protection des droits, des libertés et des garanties, à la liberté d'expression, à la liberté d'information, au droit d'informer et d'être informé. Parce qu'une presse libre ne sert pas uniquement à faire le reportage de la guerre, mais à faire également le reportage du pouvoir. Tous les ans, le prix Nord-Sud nous rappelle une vérité essentielle. Les droits humains n'existent pas seuls, de façon isolée. Ils dépendent d'autres droits et ils se renforcent mutuellement. Ma liberté en tant que citoyen portugais européen est liée aux droits humains d'un enfant islandais, est liée au droit de la presse au Moyen-Orient, à ces droits que nous partageons en tant qu'êtres humains. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas un hasard que le prix Nord-Sud soit remis depuis de si nombreuses années ici au Portugal. Ce n'est pas un hasard que le Conseil de l'Europe ait basé son centre Nord-Sud ici à Lisbonne. Le Portugal est européen dans son identité, mais il est universaliste. C'est un carrefour de culture et de peuple depuis toujours, un carrefour entre le Nord et le Sud. Il nous faut être à la hauteur de cet héritage et aller au-delà des mots. Cela exige de défendre des valeurs universelles, y compris lorsque cela gêne, et je dirais même en particulier quand cela gêne. Et c'est ce que symbolise ce prix, et je vous remercie. Je donne maintenant la parole à la présidente en exercice du comité exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, Madame Lalia Soumia Bouhamidi.
Excellence, Monsieur le Président de la République portugaise, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires parlementaires de la République du Portugal, Excellence, Madame la Secrétaire d'État des Affaires européennes Portugal, Monsieur le Directeur de la Coordination des Programmes du Conseil.
It's better, but... Okay. We want to hear you.
Okay. Je répète donc. Excellence, Monsieur le Président de la République de Portugal, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires parlementaires de Portugal, Madame la secrétaire d'État des Affaires européennes, Monsieur le directeur de la coordination des programmes du Conseil de l'Europe, honorables parlementaires de l'Assemblée portugaise, distingués lauréats du prix Nord-Sud, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif du Centre Nord-Sud, Excellences, Messieurs et Mesdames les ambassadeurs, Excellences en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, distingués invités. C'est avec un profond sentiment d'honneur et une vive émotion que je prends la parole aujourd'hui, dans ce lieu de démocratie et de dialogue, à l'occasion de la 31e cérémonie du prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe, en ma qualité de représentant du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Permettez-moi de prime abord d'exprimer au nom du comité exécutif du Centre Nord-Sud, que j'ai l'honneur de présider par intérim, notre très haute reconnaissance à l'endroit de Son Excellence Monsieur le Président de la République de Portugal, ainsi qu'aux autorités portugaises pour leur soutien constant, leur engagement indéfectible et pour la qualité d'accueil renouvelée qu'ils nous réservent dans cette prestigieuse salle du Sénat. Cet accueil, toujours empreint de solennité et d'amitié, revêt cette année une signification toute particulière alors que le Portugal célèbre le 50e anniversaire de son adhésion au Conseil de l'Europe. Cette étape historique témoigne de son attachement profond aux valeurs de la démocratie, du droit humain et de l'état de droit. C'est précisément à la lumière de ces valeurs communes que le prix Nord-Sud prend tout son sens. Le choix de ce cadre institutionnel donne à cette cérémonie une portée particulière car il nous rappelle que la démocratie vivante se nourrit de reconnaissance, de mémoire et d'exemplarité. Excellence, honorable présence, voilà maintenant 3 décennies que le Centre Nord-Sud rappelle avec force que le dialogue, la solidarité et la coopération entre le Nord et le Sud ne sont pas des options, mais des nécessités pour construire un monde plus juste, plus stable et plus humain. Cette conviction est d'autant plus essentielle au moment où nous traversons une période particulièrement critique, marquée par de profondes tensions, par des fractures géopolitiques persistantes, par la progression inquiétante des discours de haine, ainsi que par des crises humanitaires qui interpellent chaque jour notre conscience collective. Des conflits armés aux violences infligées aux enfants, des atteintes à la liberté d'informer aux remises en cause des principes fondamentaux du droit international, des défis auxquels nous sommes confrontés apparaissent à la fois nombreux, complexes et étroitement liés. Dans ce contexte et face à ces défis, le prix Nord-Sud demeure un symbole d'espérance et de confiance en l'avenir. Il rend hommage à celles et ceux qui, par la force de leur engagement, la noblesse de leur courage et la constance de leur action, œuvrent au rapprochement des peuples et à la défense de la dignité humaine. Honorable présence, mesdames et messieurs, les 2 lauréats que nous honorons aujourd'hui incarnent bien, chacun dans son domaine, l'esprit du Nord-Sud, du Centre Nord-Sud. Monsieur Bragi Gudbrandsen a consacré son parcours à la promotion et à la protection des droits de l'enfant. Son travail pionnier a contribué à faire avancer en Europe et au-delà les réponses judiciaires et institutionnelles face à la violence et aux abus sexuels commis contre les enfants, notamment à travers le modèle Barnahus qui place l'intérêt de l'enfant au centre de l'action publique. Par son engagement au sein du Conseil de l'Europe et des Nations Unies, M. Gudbrandsen a aussi contribué à faire progresser les standards et les normes internationaux de protection de l'enfance. Il nous rappelle qu'aucune société ne peut prétendre à la justice si elle ne place pas l'enfant, sa sécurité et son avenir au cœur de ses priorités. Pour sa part, M. Rami Abou Jamous, journaliste palestinien et témoin courageux des réalités vécues par les civils en temps de conflit, a donné une voix à celles et ceux que l'actualité laisse trop souvent dans l'ombre. À travers ses récits de la vie quotidienne à Gaza, il contribue à éclairer avec retenue et sensibilité les réalités vécues par les populations civiles. Son travail rappelle la place essentielle d'une information rigoureuse, indépendante et attentive à la dimension humaine des événements, ainsi que le rôle déterminant des journalistes qui sont appelés à documenter les effets des conflits dans des conditions particulièrement complexes et éprouvantes. Honorable présence, les parcours de nos distingués lauréats sont différents, mais ils portent une même exigence, celle de dire non à l'indifférence face à la souffrance humaine. Leur trajectoire nous rappelle également que la paix ne se résume pas à l'absence de conflits armés. Dans la mesure où une société véritablement pacifique est aussi une société qui protège les enfants contre les violences et les abus, qui défend la dignité de chaque personne et qui garantit l'accès à l'information libre et fiable. En célébrant ce soir les parcours de M. Rami Abou Jamous et de M. Braki Gudbrandsen, nous rendons hommage à deux engagements exemplaires portés par une même conviction, celle que la dignité humaine, la justice et la solidarité ne sont pas des principes abstraits, mais des exigences concrètes qui doivent guider notre action. À cet effet, des actions comme prévenir les violences, protéger les plus vulnérables et renforcer la confiance en les institutions font pleinement partie de la consolidation de la paix. Le Centre Nord-Sud nous rappelle aussi qu'aucun défi majeur ne peut être relevé isolément. Qu'il s'agisse de la prévention des conflits armés et la prévention de la paix, de la préservation de la paix, de la protection des civils, notamment des enfants, ou de la lutte contre la désinformation, nous avons besoin d'un multilatéralisme vivant, crédible et fondé sur le respect du droit international. Dans cet esprit, nous demeurons profondément préoccupés par les souffrances humaines causées par les conflits et crises qui touchent aujourd'hui de nombreuses régions du monde. Dans un contexte si éprouvant, la voix des lauréats est précieuse. Leurs actions nous rappellent que la paix ne se décrète pas. Elle se construit patiemment, par la confiance, par l'écoute et par la persévérance. Elle appelle chacun à assumer pleinement les responsabilités que requièrent les défis de notre époque. En honorant aujourd'hui ces deux personnalités, nous nous saluons pas seulement des parcours d'exception, nous affirmons avec solennité et espérance une vision exigeante et lumineuse de notre destinée commune, celle d'une communauté humaine qui choisit la dignité plutôt que l'indifférence, le dialogue plutôt que le repli, la solidarité plutôt que la résignation. Au nom du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, recevez nos félicitations les plus sincères, chers lauréats. Votre engagement nous inspire et nous oblige, votre constance force le respect et votre action donne sens à notre mission commune. Vous incarnez cette idée simple et puissante. L'engagement individuel peut transformer la conscience collective. Excellence, honorable présence, José Saragamo, écrivain portugais et prix Nobel de littérature, nous invitait à cette vigilance essentielle en écrivant, je cite, « Se podes olhar, ve, se podes ver, repara ». En français, « Si tu peux regarder, vois. Si tu peux voir, observe ». Ces mots résonnent aujourd'hui avec une force particulière, car ils nous rappellent que voir ne suffit pas, il faut comprendre, et que même comprendre ne suffit pas, il faut agir. À l'heure où le silence peut parfois sembler plus commode que la parole, et l'indifférence plus légère que l'engagement, les profils que nous honorons nous indiquent un chemin, celui d'une lucidité courageuse, d'une solidarité fidèle et d'une humanité commune. Puissons-nous, à leur exemple, continuer à regarder le monde avec exigence, à le voir avec justesse et à le servir avec cœur. Je vous remercie. Muito obrigada.
Dou agora a palavra ao Sr. Diretor da Coordenação Programática do Conselho da Europa, Klaus Neukirch, para uma intervenção.
Your Excellency, President of the Republic, António José Seguro, Mr. José Pedro Aguiar Branco, President of the Assembly of the Republic, Minister of Parliamentary Affairs, Mr. Carlos Abreu Amorim, Mrs. Ines Domingos, State Secretary for European Affairs, Mr. Antonio Guterres Limones, Vice President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Mrs. Lala Sumia Buhemidimi, Acting President of the Executive Committee of the North-South Centre of the Council of Europe, dear laureates, excellencies and gentlemen, I'm humbled and it's a great honour to address you today on behalf of the Council of Europe at this award ceremony for the North-South Prize. For more than three decades, this prize has recognized women and men whose work reminds us that human rights are not sustained by principles alone. They endure because individuals, institutions, and societies, often with remarkable determination, defend them in practice. This year's laureates embody that commitment in two profoundly important areas, the protection of journalism and defense of protection of children. In doing so, they remind us that democratic societies are ultimately measured by the ability to protect the vulnerable and safeguard the truth. Mr. Bragi Gudmundsson has devoted his life to strengthening the protection of children against violence and abuse. His pioneering role in developing the Barnahus model transformed the way many countries approach child protection and child-friendly justice. By bringing together judicial, social, and medical support services in a safe and coordinated environment, Barnahus places the rights, needs, and dignity of the child at the center of institutional response. The Council of Europe has long worked to advance this vision through standards, monitoring mechanism, and concrete cooperation activities. The Lanzarote Convention, the most comprehensive international treaty dedicated to protecting children against sexual exploitation and sexual abuse, and the guidelines on child-friendly justice have helped to shape more human and effective responses across Europe and beyond. Today, the convention is open to countries worldwide and already brings together parties from beyond Europe.
Aujourd'hui, la convention est ouverte aux pays partout dans le monde et permet aux différentes parties au-delà de l'Europe de s'illustrer par la pertinence de leurs normes. Monsieur Gudmundsson a joué un rôle central à cet égard, non seulement par la contribution et le développement de ses normes au sein du Conseil de l'Europe, mais également par ses efforts sans relâche pour traduire en termes pratiques tous les moyens permettant d'améliorer la vie des enfants. Le modèle Barnahus démontre combien les principes liés aux droits humains peuvent être efficaces dans la politique publique. Et cela nous rappelle également que les institutions démocratiques sont plus fortes que lorsqu'elles parviennent à protéger les plus vulnérables. Nous célébrons ou nous récompensons également M. Rami Abou Jamous, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous. Alors que les journalistes sont confrontés à des menaces croissantes partout dans le monde, ces reportages depuis Gaza témoignent d'un courage et d'un professionnalisme exceptionnel. Grâce à son travail, le public international peut être témoin des réalités humaines de la guerre, des déplacements, de la perte de vie dans des circonstances particulièrement difficiles. Son engagement nous rappelle combien la liberté d'expression et la sûreté et la sécurité des journalistes restent essentielles. Au Conseil de l'Europe, la protection des journalistes n'est pas simplement un principe, c'est un engagement continu. Grâce à la plateforme de protection du journalisme et de la sécurité des journalistes, par le biais de la campagne « Les journalistes comptent » et par le biais de ces normes, de ces activités de coopération, nous travaillons au sein et aux côtés des gouvernements, des acteurs médiatiques et des partenaires internationaux pour renforcer les protections à l'égard des journalistes et pour lutter contre l'impunité. Parce que les journalistes sont beaucoup plus que des observateurs. Comme la Cour européenne des droits de l'homme l'a dit, ce sont des gardiens de l'intérêt public. Ils sont essentiels pour la reddition des comptes, le pluralisme et un débat démocratique informée. C'est d'autant plus important alors que nous vivons des temps de crise et de guerre. Le journalisme indépendant et professionnel est peut-être l'un des derniers remparts contre la désinformation, la déshumanisation et le silence. Le travail de M. Abou Jamous illustre parfaitement ces efforts et leur importance. Mesdames et messieurs, leur travail diffère, mais nos lauréats partagent une conviction commune. Par le biais de la dignité humaine, on peut protéger et on peut passer à l'action. Et il est important de faire respecter les droits humains par l'intégrité professionnelle. Et c'est également la mission qui guide le Conseil de l'Europe par le biais des conventions, des mécanismes de surveillance, des programmes de coopération et de dialogue. Notre organisation essaye d'assurer que ces droits ne sont pas théoriques, mais réels, que la justice est accessible, que la liberté est protégée et que les sociétés démocratiques restent résilientes face à la violence, à la peur et à la division. Pour l'existence démocratique de nos sociétés. Le Centre Nord-Sud joue un rôle unique à cet égard en encourageant la coopération et le dialogue au-delà des frontières et en renforçant les partenariats enracinés dans ces valeurs partagées de responsabilité mutuelle. Permettez-moi également d'exprimer notre sincère gratitude aux autorités portugaises qui, sans relâche, soutiennent le Centre Nord-Sud et accueillent cette importante cérémonie à Lisbonne. Cette année, la cérémonie est particulièrement importante puisqu'elle marque également le 50e anniversaire de l'adhésion du Portugal au Conseil de l'Europe. Pendant 5 décennies, le Portugal a apporté une contribution importante pour faire avancer la valeur des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit au sein de l'organisation et au-delà de l'organisation. L'engagement du Portugal de longue date à l'égard du dialogue, de la coopération multilatérale et des valeurs démocratiques est essentiel au travail et au développement du Centre Nord-Sud. À nos lauréats, je dirais ce qui suit. Votre travail nous inspire parce qu'il démontre combien l'action reposant sur les principes peut faire une vraie différence. Parce que la protection des enfants, la défense de l'intégrité de l'information ou donner la voix à ceux qui ne l'ont pas est important. Le Conseil de l'Europe est fier de vous honorer aujourd'hui. Je vous remercie.
Je donne maintenant la parole à Monsieur le vice-président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Antonio Gutiérrez Limones. Bonjour, Monsieur le Président de la République portugaise, Antonio José Seguro, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Madame la secrétaire d'État aux Affaires européennes, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, éminents invités, Mesdames et Messieurs, je suis d'Andalousie, de Séville. Par conséquent, chaque fois que je viens au Portugal, nous avons l'impression d'être chez nous. Il y a un sentiment de bonheur et je suis absolument ravie d'être parmi vous aujourd'hui à Lisbonne. Mais aujourd'hui, je suis particulièrement ravie et honorée d'être parmi vous en tant que représentante de la présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame Petra Baer, et mes collègues des 46 parlements. Les liens étroits entre l'Assemblée parlementaire et le Centre Nord-Sud remontent à longtemps. C'est en effet l'Assemblée parlementaire qui, dès 1984, a organisé la toute première conférence parlementaire sur le thème Nord-Sud, le rôle de l'Europe. Cette conférence a eu lieu au sein de ce Parlement et a marqué le coup d'envoi d'un processus qui a débouché sur la création du Centre à Lisbonne en 1990 sur recommandation de la PCE. Je voudrais saisir cette occasion en présence du plus haut dignitaire du pays, le président de la République, pour exprimer notre profonde gratitude au Portugal pour son soutien constant et pour avoir été aussi actif dans la sensibilisation vis-à-vis des questions d'interdépendance mondiale. Je suis aussi particulièrement heureux également que les deux lauréats exceptionnels de cette année, M. Bragi Gudbranson et M. Rami Abou-Jamous, aient non seulement contribué par leurs actions et leurs engagements à la progression des droits humains, mais qu'ils soient aussi, dans leurs domaines respectifs, étroitement liés aux priorités de travail de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je tiens à souligner ici l'interdépendance entre les parlements et la société civile. Il est vrai que l'objectif de construire une société plus égalitaire et plus juste ne peut être atteint sans la pleine implication de la société civile, mais il est tout aussi vrai que les parlements nationaux sont bien placés pour atteindre cet objectif. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a accordé une attention particulière au soutien aux journalistes à Gaza, notamment à travers sa résolution 2623 de 2025 qui appelle urgemment à la fin de la crise humanitaire à Gaza et à la protection des journalistes, notant que depuis octobre 2023, plus de 200 journalistes, la plupart palestiniens, ont été tués et des douzaines ont été détenus. Plus précisément, elle a demandé que les journalistes et professionnels des médias puissent accéder sans restriction à Gaza et de manière libre et sécurisée. Elle a également appelé à l'évacuation des journalistes palestiniens et de leurs familles de Gaza, ainsi qu'à la fourniture d'un soutien psychologique et matériel si nécessaire pour leur protection immédiate. Nous travaillons actuellement sur un rapport intitulé « Journalistes dans le contexte du conflit Israël-Gaza » et nous avons un rapporteur général sur la liberté des médias et la sécurité des journalistes. C'est pour cette raison que notre Assemblée rend hommage aux journalistes qui, comme M. Rami Abou, ont travaillé et travaillent à Gaza. Concernant le second lauréat, M. Bragi Gudbranson, je confirme que notre comité social sur les affaires sociales, la santé et le développement durable a utilisé le modèle Barnahus pour promouvoir la justice adaptée aux enfants, les droits des enfants, et dans le cadre également de la campagne 1 sur 5 pour mettre un terme à la violence sexuelle contre les enfants. Nous avons consacré de nombreux rapports aux droits des enfants, aux abus dont ils sont victimes, à la violence contre les enfants dans les institutions, au mariage forcé, à la promotion de la participation des enfants. Et je ne peux donc que saluer le travail remarquable de M. Gudbranson et lui faire part de mon admiration pour ses réalisations. Mesdames et messieurs, le caractère innovant et visionnaire du Centre Nord-Sud reposait sur l'idée que le destin de l'Europe était lié à l'idée que les nations et les peuples du monde dépendent les uns des autres dans un maillage complexe de relations économiques, sociales, culturelles et écologiques, exigeant une coopération internationale à grande échelle et une compréhension mutuelle. 36 ans plus tard, après sa création, le centre est plus pertinent que jamais. Et j'ajouterai que l'avenir fondé sur la solidarité, l'égalité et l'inclusivité ne peut être atteint que si nous unissons nos forces, gouvernement, parlement, collectivités locales, experts, ONG et représentants de la société civile issus de pays des deux rives de la Méditerranée. Je vous remercie de votre attention.
Convido agora Sua Excelência o Presidente da República a fazer a entrega do prémio.
Je demande maintenant à Monsieur le Président de la République de remettre les prix.
Suas Excelências, o Presidente da República.
Son Excelência, le président de la République et le président de l'Assemblée de la République procèdent à la remise du prix Nord-Sud 2026 à Brady Gudbrandsen.
Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente.
Monsieur le Président de la République et Monsieur le Président de l'Assemblée de la République procèdent à la remise du prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe 2026 à Rabi Abou Djamous, représenté ici par Sarah Grira. Je donne la parole à Monsieur Rami Abou Djamous.
O nosso laureado, Canal 2.
Puis Gaza, depuis cette terre où nos bandes regardent mourir en direct, depuis cette prison à ciel ouvert où on vit un gaz acide. Oui, je dis bien un gaz acide, parce que c'est un génocide, c'est tuer un peuple, mais ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas seulement tuer un peuple, c'est tuer l'histoire, la terre, l'éducation, la santé, l'archéologie, le passé, même l'avenir, et surtout, c'est tuer l'humanité des Palestiniens. J'aurais sincèrement aimé être parmi vous physiquement, à l'Eshbol, dans cette maison de la démocratie. Mais l'occupation a décidé autrement. Sortir de Gaza et revenir est devenu presque impossible. Chaque départ, chaque retour dépend d'autorisations extrêmement limitées accordées par l'armée d'occupation. Sortir de Gaza, c'est devenu un privilège. Mais ce privilège est malheureusement réservé aux mourants. Quelques dizaines de blessés par jour obtiennent une autorisation, tandis que plus de 20 000 personnes attendent condamnées à une longue, lente agonie faute de soins. Et rentrer, c'est encore pire. L'occupation nous enferme, nous isole, nous étouffe. Je vous parle depuis la maison de la presse, un établissement que j'ai contribué à créer avec plusieurs collègues journalistes, dont mon ami Bilal Jalama, malheureusement tué par l'armée d'occupation durant cette guerre. Cette maison est pour moi un lieu de mémoire, de travail, de résistance. Être présent avec vous dans la maison de la démocratie aurait eu une portée profondément symbolique, car cet endroit représente la rencontre entre l'histoire et le présent, entre la mémoire des luttes de liberté et le combat d'aujourd'hui pour la dignité humaine. Le Portugal connaît cette valeur. La révolution des ouillets a montré au monde entier qu'un peuple pouvait transformer l'histoire par le courage et la volonté démocratique. Aujourd'hui encore, cette mémoire résonne bien au-delà des frontières portugaises. Le grand poète portugais Fernando Pessoa disait « La liberté, c'est la possibilité de s'isoler. À Gaza, même cette liberté nous est volée. Nous sommes entassés, traqués, affamés, mais malgré tout, nous refusons de nous taire. Je voudrais d'abord vous remercier, sincèrement, de m'avoir choisi, de m'accorder ce prix. Votre reconnaissance nous touche profondément. Mais je veux dire clairement dès le début, je ne reçois pas ce prix comme une distinction personnelle. Je reçois ce prix au nom de la Palestine, au nom de Gaza, au nom de tous les journalistes palestiniens. Je le reçois au nom de ceux qui sont encore en vie et continuent de travailler au cœur de ce génocide. Au nom de ceux qui ont été tués par l'armée d'occupation, alors qu'ils exerçaient simplement leur métier. Au nom de ceux qui ont été blessés, amputés, emprisonnés dans les prisons de l'occupation. Au nom de ceux qui sont encore portés disparus et dont les familles ignorent toujours leur sort. Mais ce prix est aussi une reconnaissance pour toutes les victimes de ce génocide. Une reconnaissance que leur voix a été entendue. La voix des enfants tués dans les écoles où ils pensaient trouver un refuge. La voix des femmes massacrées par les bombardements israéliens alors qu'ils vivaient dans des camps de fortune, après avoir perdu leur maison. La voix des familles entières, ensevelies sur les décombres. La voix de celles et ceux qui sont morts, sans sépulture, sans adieu, et dont les corps restent encore aujourd'hui solidaires sur les ruines et les décombres. La voix de celles et ceux qui ont été tués par l'occupation israélienne, puis laissés dans des rues, dévorés par les animaux. Oui, dévorés par les animaux. Une scène d'une humiliation absolue, où même le droit d'être enterré dignement après la mort est refusé. C'est aussi une reconnaissance de la souffrance quotidienne des Palestiniens, surtout ceux de Gaza. Des familles qui vivent depuis des années sous des bâches, dans des tentes fragiles, concentrées les unes contre les autres dans des comptes de fortune. Des parents qui passent leur journée à chercher de l'eau, du pain, un peu de sécurité pour leurs enfants. Des enfants qui grandissent entre le bruit des bombardements, la faim et la peur. Et pourtant, derrière chaque chiffre annoncé, il y a une vie humaine. Nous ne sommes pas des chiffres. Nous ne sommes pas des statistiques. Nous sommes des êtres humains. Chaque personne tuée avait un nom, un visage, une famille, des rêves, des ambitions, une histoire. Chaque enfant tué par l'armée d'occupation rêvait de devenir médecin, journaliste, enseignant, artiste, footballeur. Chaque mère voulait simplement protéger ses enfants. Chaque père voulait offrir une vie digne à sa famille. L'occupation ne tue pas seulement des Palestiniens, elle tue la Palestine. Le grand poète palestinien Mahmoud Darwish disait « Sur cette terre, il y a ceux qui méritent la vie. » Et c'est exactement cela les Palestiniens devant chaque jour, le droit de vivre en dignité, en liberté. Ce prix est aussi une réponse à tous ceux qui ont essayé de nier notre existence en tant que journalistes palestiniens. Pendant des années, certains ont parlé de Gaza quand il n'y avait pas de journalistes palestiniens. Comme si notre parole n'existait pas, comme si seuls les autres pouvaient raconter notre réalité. Aujourd'hui, cette reconnaissance internationale prouve le contraire. Oui, il y a des Palestiniens, mais il y a des journalistes palestiniens à Gaza. Oui, ils travaillent. Oui, ils documentent. Oui, leur voix compte. Surtout, et surtout, le monde les écoute. Cette récompense est la preuve que notre travail est vu, suivi et entendu par celles et ceux qui cherchent encore la vérité, au milieu de bruit, de la propagande, de la désinformation. C'est aussi, d'une certaine manière, une victoire pour la Palestine. La victoire des têtes plumes face à un immense arsenal médiatique. Une victoire pour les journalistes souvent seuls, épuisés, un danger permanent, sans protection, face à une machine de destruction qui n'est pas seulement militaire, mais aussi médiatique. Car ce génocide ne se déroule pas seulement sur les bandes, il se joue aussi dans les récits, dans les images qu'on tente d'effacer, dans les voix qu'on cherche à se faire taire, dans l'humanité même des Palestiniens que certains refusent encore de voir. L'occupation empêche les journalistes étrangers d'entrer à Gaza pour témoigner. Ils veulent commettre leurs crimes sans témoin. Et pourtant, les journalistes palestiniens ont documenté cette guerre sans interruption, sans fatigue, image après image, nom après nom, visage après visage. Et c'est probablement l'un des premiers génocides de l'histoire que le monde entier a pu voir, presque en direct, en temps réel. Le monde entier a pu voir, avec ses propres yeux, les pires massacres. Mais apparemment, il y en a ceux qui n'ont pas les yeux propres. Comme l'écrivait José Saramago, si tu peux regarder, vois. Si tu peux voir, remarque. Le monde a vu, le monde a regardé. Mais trop souvent, le monde a fermé les yeux. Pourtant, les images étaient là, les preuves étaient là, les enfants ils étaient là, les journalistes étaient là. Et malgré tout cela, certains ont continué à détourner le regard. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à mes collègues journalistes qui ont été tués par l'occupation, à celles et ceux qui ont porté une caméra, un micro, un carnet, jusqu'à leur dernier souffle. Ils n'étaient pas seulement des journalistes, ils étaient des témoins. Ils sont une mémoire vivante d'un peuple qu'on tente trop souvent de réduire au silence. Je veux aussi rendre hommage à celles et ceux qui continuent de travailler, malgré la faim, la peur, le déplacement, le deuil, la destruction de leur maison. Et malgré qu'ils le fait surtout qu'ils puissent être tués, ils savent qu'ils peuvent être tués à n'importe quel moment par l'occupation. Mais malgré ça, ils continuent de travailler. Ces journalistes ne couvrent pas seulement la guerre, ils la vivent. Nous ne racontons pas seulement la souffrance, on la porte dans notre propre chair, dans nos familles, dans nos enfants, dans nos histoires personnelles. À Gaza, le journalisme est devenu un acte de survie, un acte de résistance. Informer, c'est résister à l'effacement. Filmer, c'est protéger la mémoire. Témoigner, c'est défendre la dignité humaine. Et comme il disait Mahmoud Darwish, nous souffrons d'un mal incurable, l'espoir. Oui, c'est justement, malgré tout, nous continuons d'espérer. Nous continuons de croire en justice, en la liberté, en la dignité humaine. Nous continuons surtout de croire qu'un jour prochain, nous pourrons nous rencontrer, vous et nous, madame, messieurs, non pas derrière des frontières fermées, non pas séparés par les bombes, non pas à travers des écrans ou Internet, mais dans une Palestine libre, où les journalistes pourront enfin raconter la vie plutôt que compter les morts. Un jour prochain, mes enfants, Walid et Ramzi, grandiront sans avoir peur des bombes, et ils joueront avec vos enfants sur la jolie place de Gaza. Excellence, avant de conclure, je veux remercier toutes les personnes, amis et collègues. Ils sont nombreux et nombreux, je ne peux pas les citer tous. Ils ont relayé ma voix, ma plume, mes émotions, et m'ont soutenu moralement et financièrement pendant ce génocide. Et surtout, je tiens à remercier Orion 21, que grâce à eux, ma voix a pu être entendue en France, en Europe et dans le monde entier, et surtout le monde francophone en général. Je veux aussi et surtout remercier des milliers de personnes que je ne connais pas personnellement, mais qui n'ont jamais cessé de me soutenir en lisant ce que j'écris, en regardant ce que je filme, en m'envoyant des messages et des lettres de soutien et de solidarité. Je ne les connais pas, mais ils n'arrêtent pas de me soutenir. Et bien sûr, je tiens à remercier ma famille, et tout particulièrement mon épouse Sarah. C'est grâce à elle que j'ai pu continuer à travailler. C'est elle, c'est mon pilier, c'est mon souffle. Et je remercie aussi mes enfants, Olivier et Ramzi. Chaque matin, avant de partir travailler, ils me donnent la force et l'espoir à travers la lumière qui brille dans leurs yeux. Même si au fond de moi, chaque matin, je pose la même question, est-ce que je vais les revoir ? Excellence, je vous remercie encore pour ce prix, pour votre solidarité, pour l'intention que vous portez à la Palestine, aux journalistes palestiniens. Que ce prix soit un message clair. Les journalistes palestiniens ne sont pas seuls. Le peuple palestinien n'est pas seul. Gaza n'est pas seul. La Palestine n'est pas seule. Et que ce cri soit aussi un cri. Le Gaza City ne passera pas en silence. Merci. Merci. Merci.
Merci pour vos paroles et bon courage pour la mission.
Je donne désormais la parole à M. Bragi Gudbranson. La parole est à vous, monsieur.
Excellency, President of the...
Monsieur le Président de la République portugaise, António José Seguro, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République portugaise, Monsieur José Pedro Agar Branco, Madame Lala Bouamidi, Présidente par intérim du Comité exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, Monsieur Klaus Neukirch, directeur de la coordination des programmes du Conseil de l'Europe, Monsieur António Guterres Limones, vice-président de l'Assemblée parlementaire, et Madame la secrétaire d'État aux affaires européennes, Inés Domingos, et bien entendu, cher Rami Abou Jamous, co-lauréat de ce prix Nord-Sud. Excellences, Mesdames et Messieurs, pendant les 50 années d'engagement professionnel qui ont été les miennes, je n'aurais jamais imaginé recevoir un tel honneur, aussi grand que celui qui m'est fait aujourd'hui. Il m'est difficile de traduire mes pensées et mes émotions en mots. Et je tiens à vous faire part de ma profonde gratitude à cette heure. Mes pensées se tournent vers les nombreux collègues, tous les professionnels des droits des enfants et partenaires qui, dans le passé et aujourd'hui encore, ont travaillé et avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler au fil des ans. J'éprouve également une joie immense d'avoir pu réfléchir sur les réalisations remarquables du Conseil de l'Europe en termes de développement et de promotion des normes qui ont renforcé la protection des enfants victimes et témoins. Je voudrais utiliser ces quelques minutes pour partager avec vous l'histoire de Barnahus et vous expliquer comment la coopération entre les initiatives locales, les organisations internationales et des professionnels engagés peut déboucher sur des résultats tangibles et durables pour les enfants victimes d'abus, de négligence ou de violence. Le Barnahus n'a pas vu le jour en tant que modèle d'excellence pleinement développé. Ce n'était pas le fruit du génie d'un individu. Tout a commencé avec une idée simple et imparfaite qui a évolué progressivement via le dialogue et la coopération avec les professionnels, les parents et plus important encore, les enfants. Il y a 40 ans de cela, alors que j'étais directeur des services sociaux locaux en Islande, j'ai été confrontée à mon premier cas d'abus présumé d'enfants. À l'époque, l'Islande, comme beaucoup d'autres pays, était dans le déni face au phénomène de l'abus sexuel des enfants. C'était avant l'adoption de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et avant que les standards internationaux basés sur les droits des enfants prennent forme. Je me souviens vivement encore de l'empathie que j'ai éprouvée face à cette petite fille de 10 ans qui était au centre de cette affaire. Je me souviens également de ma frustration, de mon impuissance alors que je m'efforçais de naviguer à travers un système qui était dépourvu de procédures, de lignes directrices et de réponses appropriées. Et cette expérience m'a apporté plusieurs enseignements. Premièrement, l'abus sexuel des enfants, ce n'est pas seulement une question de protection d'enfants, une question de santé ou une question de justice pénale. C'est tout cela simultanément. S'attaquer à cela, c'est impliquer toutes les agences et toutes les professions, les services de protection de l'enfance, le personnel médical, la police, les procureurs, les avocats, les tribunaux et les professionnels de santé mentale. Deuxièmement, j'ai appris que toutes ces institutions dépendaient du récit de l'enfant pour s'acquitter de leurs obligations légales et professionnelles. Mais à l'époque, il n'y avait aucune formation en matière d'entretien sur la façon de mener des entretiens auprès des enfants. Associé à la croyance très répandue selon laquelle les enfants étaient des témoins peu fiables, cela a conduit au fait que les enfants soient soumis à des interrogatoires répétés, souvent dans des endroits très variés, via des procédures inappropriées. Le résultat est que les témoignages recueillis avaient peu de qualité en tant que preuve. Et bien souvent, cela conduisait à une retraumatisation de l'enfant. Très peu de cas ont abouti à des poursuites. Et quand c'était le cas, les enfants, bien souvent, se retrouvaient face à face avec leur agresseur présumé. Une expérience qui, en soi, était très dommageable pour l'enfant victime. Des années plus tard, lorsque je suis devenue directeur général de l'Agence pour la protection des enfants, je n'avais toujours pas oublié la petite fille de 10 ans, ni les leçons que j'avais apprises. En 1998, lorsque la première Barnahus a été établie à Reykjavik, l'idée était très simple. Il fallait changer de paradigme, placer l'enfant au centre d'une réponse coordonnée, pluridisciplinaire et favorable à l'enfant, le tout sous un seul et même toit. Barnahus a réuni les services de protection de l'enfance, de santé mentale, des forces de l'ordre, les services de justice pénale, de manière à réduire la fragmentation et réduire le traumatisme additionnel pour l'enfant. L'une des plus importantes innovations, ça a été l'intégration d'entretiens médico-légaux via des enregistrements audiovisuels. Cela permet de préserver l'enfant la présence à l'audience. Barnahus, de cette manière, s'est efforcé de garantir l'accès des enfants à la justice sans sacrifier leur dignité, leur bien-être et leur guérison. Il ne fait aucun doute pour moi que le Conseil de l'Europe a contribué plus que toute autre organisation internationale à cette évolution. Le Conseil de l'Europe, avec ses lignes directrices sur la justice adaptée aux enfants, reflète bon nombre de principes sur lesquels se fonde Barnahus et recommande explicitement que les centres accueillant des enfants victimes et des enfants témoins soient des centres multidisciplinaires. Par ailleurs, la Convention de Lanzarote est une étape également décisive qui a fait progresser la justice adaptée aux enfants, les réponses pluridisciplinaires face à l'abus sexuel des enfants en Europe. Elle a joué un rôle pivot dans la promotion du modèle Barnahus. Ces instruments et ces activités du Conseil de l'Europe ont eu un impact direct sur la législation et les pratiques nationales. Elles ont influencé également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'a fait qu'accroître l'accent placé sur la dignité, la protection et l'intégrité psychologique de l'enfant au cours des procédures judiciaires. En 2018, j'ai eu l'honneur d'être élue par les Nations Unies en tant que membre du Comité sur les droits de l'enfant. Et je suis fière de pouvoir dire que le Comité a émis des recommandations aux États parties qui promeuvent également l'approche intersectorielle, multidisciplinaire et centrée sur l'enfant. Monsieur le Président, avant de conclure, je tiens à exprimer toute mon admiration à mon co-lauréat, M. Rami Abou Jamous, et je tiens à le remercier d'avoir, envers et contre tout, continué de témoigner les souffrances des enfants de Gaza. Mais toute ma gratitude la plus profonde à lui et à tous les enfants de Palestine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, du plus profond de mon cœur, merci. Merci au Conseil de l'Europe pour être cette plateforme de préservation et d'avancement des valeurs qui sont essentielles pour la survie, la dignité et l'épanouissement de l'humanité. Je vous remercie.
Nous allons maintenant donner la parole au président de la République portugaise. Monsieur le président de l'Assemblée nationale portugaise, mesdames et messieurs vice-présidents de l'Assemblée nationale portugaise, mesdames et messieurs représentants des groupes parlementaires, mesdames et messieurs les députés, madame la secrétaire d'État aux questions européennes, Madame la Présidente par intérim du Comité exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, Monsieur le Directeur de la coordination des programmes du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les diplomates, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, je commence avec une confession. C'est avec un plaisir douloureux que je me prononce sur la remise du prix Nord-Sud à Brag et Gwambransom et à Rami Abou-Jamou. Ce sentiment étrange tient en quelque sorte de cette contradiction abrupte des temps que nous vivons. D'une part, nous avons des pays et des dirigeants qui s'emploient à miser sur la tragédie, à propager le mépris des droits humains, à nier ce que nous pensions acquis, une civilisation empreinte d'humanisme. Et par ailleurs, nous avons ces voix qui jaillissent et ébranlent l'indifférence. Des voix qui nous appellent à revenir à notre essence, celle de notre condition humaine. Des voix qui soignent. Récompenser cette alerte, récompenser ce cri est sans aucun doute plus qu'un plaisir, c'est un devoir, mais c'est également un remerciement de notre part. De ce que nous sommes, de ce qui nous unit, de ce que nous protégeons, ça ira mieux demain. C'est le même rêve que Walid, celui de Walid, le fils du journaliste Rami Abou-Jamin, pour qu'un jour prévale la justice. Son père, dans son journal, alors qu'il raconte la cruauté à laquelle sa famille et beaucoup d'autres familles sont acculées à Gaza, a créé un imaginaire de protection pour son enfant de 3 ans. Et voici un extrait de son journal de bord de Gaza. Je cite. Dernièrement, des drones et des hélicoptères ont survolé notre quartier. Nous les voyons très bien depuis le 9e étage de notre bâtiment au centre de la ville de Gaza, un des derniers bâtiments encore debout. Alors que nous conversions, un missile a été lancé à partir d'un des hélicoptères avec un sifflement et nous avons assisté à la destruction d'un immeuble à quelques centaines de mètres du nôtre. C'est ce que Walid appelle dans son français d'enfant un artifice. Depuis le début de la guerre, je lui ai fait croire que les missiles et les bombes n'étaient que des feux d'artifice. Mais il a bientôt 4 ans et il commence à comprendre que ces feux d'artifice peuvent être dangereux et que les hélicoptères ne sont pas là pour l'aide humanitaire. Il a voulu appeler la police parce que ces hélicoptères n'utilisaient pas les feux d'artifice de façon correcte. C'était pour détruire des maisons. Walid sort peu à peu de ce monde imaginaire que je lui ai créé pour lui épargner la réalité mortelle que nous vivons. Une réalité mortelle dont parle Ramou Abou-Jamis et je pense résumer les choses correctement en disant un mode de vie, fuir les bombes, objectif de vie, survivre avec ma famille, style de vie, être abasourdi tous les jours, émotion de vie, désespoir, esprit de vie, injustice, témoignage de vie, mort, partage de vie, être entendu, crier à la conscience de l'humanité. Contrairement à certains, dans le confort de leur logement, alors qu'ils voient ces images de la guerre et qu'ils ne ressentent plus rien en raison de la banalisation de la violence et du désenchantement, eh bien nous voyons l'amertume se transformer face à cette action. Et nous ne pouvons pas nous cacher dans une cuirasse d'indifférence. Rami Abou-Jamou et beaucoup de ses camarades refusent de se taire. Comme les journalistes, ils cherchent à relater la réalité déformée par les armes et la propagande. Et les journalistes, nous savons, font l'objet de la barbarie de cette tragédie humaine. Dans de nombreux conflits qui se répandent sur la planète, à Gaza et au Liban en particulier, nous avons vu au comité que la protection des journalistes est très importante. L'an passé, 129 journalistes ont perdu la vie. Alors qu'ils exerçaient leur travail, la moitié sont morts à Gaza. Et d'après la même organisation, et je cite les forces de la défense d'Israël, sont une entité gouvernementale qui a tué plus de journalistes depuis que le comité a commencé à comptabiliser les cas en 1992. Cette année, 16 des 27 journalistes assassinés ont été victimes d'attaques israélites selon l'ONG, campagne emblème de la presse. La plupart de ces morts sont intervenues au Proche-Orient, en particulier au Liban et à Gaza. L'appropriation de la violence par les pays qui se transforment en états belliqueux, l'aide donnée par les superpuissances qui recourent à des procédures qui sont égales à la violation des droits humains, tout cela écrase l'espoir de la vie et d'une vie juste et d'une vie de paix. Il en va de même pour la signature d'un traité de paix qui ne signifie plus la fin de la guerre. Ces traumatismes continuent, en particulier chez les enfants. Et donc, les enfants, qui sont les plus fragiles, sont face à cette cruauté. Et nous avons d'autres aspects de ces guerres et de cette violence. L'Ukraine en est un exemple plus proche de nous. Nous voyons la dévastation psychologique ressentie par ces enfants, qui est encore plus grave dans d'autres États, comme au Soudan, où les structures d'État n'existent quasiment plus. Et c'est parce qu'il existe toutes ces violences que nous devons continuer à lutter pour la justice. Ça, c'est la connaissance de notre autre lauréat, Bragi Gwambranson, un nom qu'il est difficile à prononcer, j'ai dû m'entraîner plusieurs fois. Mais sa détermination et ses connaissances sont faciles à comprendre et à admirer. Comme l'a reconnu le jury du prix Nord-Sud, ses contributions, et je cite, « renforcent les réponses judiciaires pluridisciplinaires et adaptées aux enfants face à la violence et aux abus sexuels, tout en aidant à élaborer des normes internationales de protection de l'enfance par le biais du travail mené au Conseil de l'Europe et aux Nations Unies. » Fin de citation. Le fait que Bragi Gwambranson, de fait, participe à de nombreuses organisations internationales qui travaillent sur les droits et la protection de l'enfance est une preuve de la reconnaissance de son travail. Miser sur la pluridisciplinarité, sur le modèle qu'il a conçu, le Barna House, qui en portugais s'appellera la maison de l'enfant, pour répondre aux besoins des enfants qui sont témoins de victimes de tout type de violence, ont inspiré plus d'une vingtaine de pays. Monsieur Gwambranson est également l'auteur de nombreux livres, et notamment d'un livre qui permettra d'améliorer les services judiciaires, les services de sécurité sociale. Et je cite, « Les enfants doivent grandir dans leur famille. Dans les moments de crise et des difficultés, les familles doivent bénéficier de l'aide des autorités pour les aider à résoudre leurs problèmes de façon adaptée à leur situation et à trouver un accueil sans exception le plus rapidement possible. » Et je termine avec deux autres références. La première, c'est l'Assemblée nationale portugaise qui accueille cette cérémonie de remise des prix Nord-Sud. C'est déjà une traduction pour tous les députés et la fierté du Portugal et la fierté du président de l'Assemblée nationale. L'autre référence est celle du Conseil de l'Europe et du Centre Nord-Sud et son implication dans la promotion des valeurs démocratiques et des droits humains. Nous voyons cette implication directe de plus d'une centaine de pays aux initiatives qui sont réalisées, en particulier aux conventions internationales. Cela est un témoignage important du travail développé. Et aujourd'hui encore, ce témoignage est une force motrice pour barrer la dérive autocratique qui se fait sentir, y compris dans les régimes dits démocratiques. Et c'est pourquoi l'attribution de ce prix a un sens double. Et je reviens au début de mon intervention, récompenser les voix qui jaillissent et qui ébranlent l'indifférence mondiale, des voix qui nous rappellent notre condition humaine, des voix qui prennent soin des plus fragiles et s'insurgent contre la violence. Récompenser ces voix, c'est récompenser ceux qui le font, c'est récompenser le sujet, l'action et le verbe aimer. À nos deux lauréats, mes sincères félicitations. Je formule des vœux pour que nous puissions nous rencontrer demain et que ce rêve devienne réalité. Demain, ça ira mieux.
intervenção do Sua Excelência Presidente da República, declaro.
Avec l'intervention du Président de la République, nous déclarons terminer cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, veuillez rester en place jusqu'à la sortie du Président de la République portugaise et de la présidence et du Président, pardon, de l'Assemblée nationale portugaise. Merci.